Bonjour, bienvenue au podcast J'ai des questions. Je m'appelle Mindy et aujourd'hui, je suis contente de partager avec vous la conversation que nos animatrices Héloïse et Christina ont eue avec Maxime Desormeaux sur les fréquentations. Maxime est marié, père de deux enfants, pasteur de direction à l'église Le Portail et pasteur responsable du site de Terrebonne, qu'il a implanté en 2014 avec sa femme Sarah. Détenteur d'un baccalauréat en études théologiques et pastorales avec une mineure en études bibliques, Maxime œuvre comme pasteur depuis plus de 14 ans. Ayant trouvé qu'il était la bonne personne pour répondre avec nous à la question « Est-ce que je peux fréquenter une personne non-chrétienne? » Que dit la Bible par rapport aux relations amoureuses avec les non-chrétiens? Et si la personne est ouverte au christianisme? Comment faire confiance en Dieu, surtout quand notre cœur veut autre chose? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions.
Bonjour, bienvenue au podcast J'ai des questions. Je m'appelle Héloïse et je suis accompagnée de Christina. Salut Christina.
Salut.
On veut parler des relations humaines et sociales depuis la création de ce podcast, mais ça n'a pas encore à donner. Cette saison, on se reprend. Aujourd'hui, on veut parler des relations amoureuses, mais pas n'importe lesquelles. On a une question assez spécifique. Est-ce qu'on peut sortir avec quelqu'un qui n'est pas chrétien ou chrétienne? Et pour en parler, on a avec nous Maxime Desormeaux. Merci Maxime d'être là.
Salut, salut. Ça fait plaisir. Bonjour à vous deux.
Je me demande si c'est de ma faute si on n'a pas encore parlé des relations amoureuses. Je trouve que les chrétiens aiment beaucoup trop en parler. C'est quasiment aussi sacré que Noël et Pâques. À chaque année, en février, il y a une série, des articles ou des webinaires sur le sujet. Moi, je suis célibataire et je suis pas pressée de me marier, donc je trouve ça toujours un peu trop. Mais ça reste que Dieu nous demande de l'aimer et d'aimer notre prochain. Donc, c'est vraiment important qu'on ait des réponses sur ce sujet-là, sur les relations amoureuses. Puis ce qui est le fun, c'est que Dieu en parle. Alors, pour commencer, j'aimerais ça qu'on explore qu'est-ce que dit la Bible par rapport aux relations amoureuses avec les non-chrétiens.
Wow! D'abord, merci de poser la question. C'est une bonne chose que de se poser la question, de réfléchir sur le sujet. Je suis aussi conscient aujourd'hui qu'il y a plein de sensibilités par rapport à ce sujet-là et cette question-là. Parce que, au bout de la ligne, si on parle de fréquentation, pour un chrétien, l'objectif d'une fréquentation devrait être le mariage. Right? Au bout de la ligne, on veut savoir est-ce que l'objectif, c'est de bâtir un couple, bâtir quelque chose qui va être solide et finalement arriver à un mariage et que le mariage perdure. C'est ce qu'on croit bibliquement. Bon, ça, c'est notre base commune à tous. Et donc, si on parle de fréquentation qui mène vers un mariage, puis le mariage va faire partie de notre quotidien en tant que chrétien et même juste n'importe qui se marie, qui est un conjoint de fait ou qui habite avec quelqu'un à temps plein, ça fait vraiment partie du quotidien. Donc, c'est important de se poser la question. Héloïse, tu demandes qu'est-ce que dit la Bible là-dessus? il y a plusieurs choses qui parlent du sujet des relations. Il y a beaucoup de choses juste dans l'enseignement de l'Ancien Testament. On voit vraiment le peuple de Dieu qui est mis à part, le peuple de Dieu qui se mélange pas avec d'autres peuples. Il y a toute cette pensée-là dans l'Ancien Testament. Suite à cela, dans le Nouveau Testament, on voit un peu plus en 1 Corinthiens chapitre 7 qui est extrêmement intéressant. Vous pourrez le lire, là, 1 Corinthiens chapitre 7 qui parle de plein de concepts sur les relations, surtout des gens qui se convertissent et tout ça qui se convertissaient à l'époque à Corinthe puis qui avaient toutes sortes de questions par rapport à leur mariage déjà actuel qu'ils avaient. Mais plus précisément, le texte qui, selon moi, est le plus clair dans la Bible à ce sujet, c'est le texte de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, et je peux le lire pour vous. Je vais même commencer au verset 11, puisqu'on voit l'apôtre Paul qui a vraiment une sensibilité, vous allez voir. Verset 11, ça nous dit « Chers Corinthiens, nous venons de vous parler en toute franchise, nous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est vous qui faites preuve d'étroitesse dans vos sentiments. Laissez-moi vous parler, comme à mes enfants bien-aimés. Rendez-nous l'appareil. Ouvrez-nous, vous aussi, votre cœur. » On voit juste Paul là qui veut juste avoir un cœur à cœur, qui est un peu comme un bon grand-père peut-être envers de jeunes chrétiens. Et voici verset 14. « ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à la loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant et l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Et là, ça poursuit. Dieu lui-même a dit, « J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur, n'ayez pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur le Tout-Puissant. » Si on s'attarde juste, principalement, là, tu sais, juste la pensée du verset 14, « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. » Tu sais, toute cette pensée-là, ça s'applique autant, selon moi, à « Fais pas affaire avec un... » Parce que moi, comment je l'applique, c'est de, le chrétien ne devrait pas faire affaire, mettons, faire un start-up de business, puis de partir une business avec un partenariat financier, un projet d'investissement, ou même, tu sais, quelque chose qui inclut un élément légal, devrait pas faire ça avec un incroyant, parce qu'il y a tellement d'éléments qui peuvent venir en contradiction. Puis si on revient un peu à la question, ben, je crois que c'est le passage le plus clair sur cette question-là, vu que le mariage est une alliance. Ouais.
Oui, ben c'est intéressant, tu es en train de parler de différents types de relations, là, parce que moi, moi, quand j'entends un joug, je me dis pas aux relations amoureuses, là, c'est comme, c'est pas nécessairement comme ça que je décris, tu sais, ma relation avec mon mari, ah oui, on est sous un joug. Fait que tu es en train de dire, si je comprends bien, que le passage pourrait s'appliquer à d'autres types de relations, mais que ça s'applique, entre autres, à l'alliance du mariage.
Définitivement, parce que le joug, souvent on le voit comme un poids lourd, tu sais, comme un poids, puis évidemment le mariage n'est pas un poids, j'espère, on espère, mais veut pas, c'est une alliance, c'est un quelque chose qui est entre deux personnes qui, oui, relie deux personnes à jamais, c'est ça le mariage, tu sais. Fait que oui, c'est une entente, un poids, une décision qui unit, tu sais, une seule chair, tu sais, l'homme et la femme deviendra une seule chair, fait que c'est vraiment une union qui est pour moi ultra sérieuse et importante. Et ouais. Est-ce que ça fait du sens?
Oui, ça a du sens. D'une certaine façon, ce que je comprends un peu, c'est que tu sais, le mariage, c'est une des relations qui va durer le plus longtemps, on l'espère. Là. Tu sais, je pense qu'une des raisons, premièrement, ce que je réagis, c'est que je me dis, ben, le monde, on voit pas toujours le mariage avec autant de sérieux. Fait, peut-être ça, c'est une des premières choses qu'on doit comme corriger dans nos cœurs, c'est de se dire si on croit vraiment que le mariage c'est pour la vie, que c'est un engagement des plus sérieux, là c'est encore plus un engagement que d'autres, tu sais, d'autres deals ou ententes qu'on fait avec les gens là.
Définitivement.
Puis encore une fois, si pour nous, ça tout dépend aussi de comment qu'on perçoit les fréquentations. Si pour nous, l'idée de sortir avec quelqu'un, c'est pas nécessairement pour mener au mariage, bien, on prend pas ça autant au sérieux.
Effectivement. Il y a aussi que... Voici, là, on a parlé du texte biblique, puis je pense que le podcast ne se termine pas à l'instant. on a aussi toute la perspective, le vécu, la réalité de le quotidien, comment on feel ça, comment on vit ça dans notre être intérieur, puis les émotions qui se mélangent à tout ça. Donc, des fois, le texte est très noir et blanc, mais selon moi, mais je suis totalement conscient et compatissant parce qu'il y a plein de zones grises dans la vie. Il y a plein d'endroits où ce que on a de la difficulté même à s'accorder avec ce qui est noir et blanc. Donc, ouais, le texte, pour moi, me semble assez clair dans ce que ça nous inspire dans l'idéal, mais tu sais, la Bible parle tellement d'idéal que nous, à cause que nous sommes pécheurs, nous sommes incapables très souvent que de marcher dans cet idéal-là. Et ça, c'est dans tous les aspects de nos vies, tu sais.
Ben moi, je pense à une chose où des fois, il y a des non-chrétiens que je vais rencontrer qui ont l'air des meilleures personnes, des fois, que les chrétiens, ou qui, avec qui ma personnalité va plus fonctionner. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce que je pourrais pas être avec une personne qui est bonne, puis qu'on s'entend bien, alors que ça veut pas forcément dire que je trouve ça chez des chrétiens. Qu'est-ce qui fait que c'est quand même, il y a encore une différence, là?
Ben déjà, je dirais que, en fait, je crois que avant d'embarquer dans une fréquentation, donc de vraiment s'engager dans un désir de, avec une autre personne, dans un désir de peut-être aller plus loin, je pense que nous devrions et nous gagnerions à avoir plus d'amitié et d'allonger ce temps d'amitié. Je crois que, en tant que chrétien, on devrait être plus à l'aise avec l'amitié, surtout si on est célibataire, d'avoir des amis du sexe opposé pour justement apprendre à se connaître, développer. Des fois, les relations peuvent prendre du temps avant que ça clique vraiment, avant qu'il se passe vraiment quelque chose. Des fois, justement, nos personnalités, tout ça. Donc, je crois qu'on gagnerait à allonger ce temps-là. Je suis d'accord avec toi que ce n'est pas à cause que un gars que tu vois à l'église puis qui est le seul jeune homme de ton église puis qui a l'air sérieux puis qui est sérieux dans sa foi chrétienne puis qui en même temps il a une bonne job puis que tes parents te mettent de la pression, ça veut pas dire que c'est celui-là que tu dois marier. Ça, amplement d'accord avec ça, tu sais. Il faut qu'il y ait tellement plus que ça. Puis oui, des fois, ça se trouve chez des non-chrétiens. La personnalité, tout ça, ça clique. Mais la fondation de ton mariage ne sera pas sur une personnalité. C'est toujours là, la question va toujours revenir. C'est sur quoi tu vas fonder ton mariage qui, elle, je dis toujours, lorsque je fais une cérémonie de mariage, le mariage est le fondement de la famille qui, elle, est le fondement de la société. Donc, sur quoi tu vas fonder ce mariage-là, tu sais, parce que ça va influencer ta famille, ça va influencer tout après, puis même notre société au bout de la ligne.
C'est un bon point, ça. Il y a plein de bons points qui ont été dits, là, mais l'idée qu'en fait, on ne fonde pas notre mariage sur la personnalité, j'apprécie ça, parce qu'en fait, on change. Fait que même, tu sais, si on clique super bien avec quelqu'un qui partage pas notre foi, puis ça peut être... Tu sais, moi, j'ai quand même des très bons amis, là, qui sont pas chrétiens. J'ai de la famille qui est pas chrétienne, puis je m'entends super bien avec eux. Ça fait pas d'eux des mauvaises personnes, mais n'empêche que si je compte sur un peu que ça clique, là, finalement. Mais il va y avoir des temps, là, quand on va être marié, que ça cliquera pas. Ça ne quittera pas toujours. C'est comme ça prend quelque chose d'autre sur lequel on se base, surtout dans les moments difficiles. C'est plus facile quand les choses vont bien de bien s'entendre avec quelqu'un, mais si à long terme, on est avec quelqu'un parce qu'on s'entend bien avec eux ou qu'il y a une belle chimie, tout ça, c'est très bien. Puis je sais que dans ces moments-là, surtout dans les débuts, on se dit que ça va durer pour toujours. je vous le souhaite, mais souvent, en fait, ces émotions-là, elles ne durent pas pour toujours. Puis c'est super bon d'avoir comme notre base. Mais en fait, c'est critique que notre relation soit basée sur Christ.
Je vais même aller plus loin, parce que j'ai souvent eu cette discussion-là avec des gens qui étaient tellement sincères avec Jésus. Mais, puis j'ai des histoires en tête, là, tu sais, j'ai quand même un petit bagage d'expérience. Mais ils développaient des émotions, des feelings, tu sais, l'amour, tombait en amour, tu sais, avec quelqu'un avec qui il y avait plein d'affinités, puis cette personne-là n'était pas croyant. Puis tu sais, une des choses qu'on doit réaliser avec nos émotions, puis ces feelings-là, c'est qu'ils ne sont pas subjectifs. En fait, nos émotions sont de très mauvais conseillers. puis c'est important évidemment dans une relation d'avoir des émotions pour l'autre personne, ça on s'entend, mais ce n'est pas ce qui doit faire la base de ton mariage. Pourquoi? Parce que tu sais, moi je peux avoir des moi je peux aimer le bacon, ça ne veut pas dire que je vais marier une vache. On peut avoir des émotions et c'est important dans le mariage, mais le mariage, c'est plus que des émotions. Le mariage, c'est une alliance. Puis quand tu penses au futur d'une manière objective, tu penses au futur, tu enlèves tout ce qui est instantané en ce moment, des papillons que tu as dans le ventre, tu sais. Enlève ça. Projette-toi dans 10, 15, 20 ans. Quand vous allez vivre des chicanes de couple, puis que la grâce et le pardon de Jésus ne sera pas au milieu de vous pour vous pardonner ou faire grâce l'un à l'autre comme Christ nous a pardonné. Le moment où ce que tu vas voir, des fois le couple peut super bien aller parce que vous avez tellement de belle chimie et tout ça, mais le moment où ce que tu vas avoir perdu ta job, le moment où ce que tu vas avoir perdu peut-être même un enfant, puis que tu vas juste vouloir prier avec ton conjoint ou ta conjointe. Juste avoir ce temps-là de dire comme « Ah, on a besoin de s'accrocher à quelque chose de plus grand. » Ben, c'est ces moments-là que tu peux pas vivre quand ton conjoint, ta conjointe n'est pas chrétienne. Puis c'est ça qui est tough. Puis encore une fois, je reste ultra sensible parce que je veux pas non plus jouer avec tes émotions ou avec les émotions des gens qui vivent ces situations-là, qui sont en couple avec des non-chrétiens, mais c'est quand même vrai, tu sais. Puis je veux être vraiment sensible à ton désir peut-être de te mettre en couple. Mais en même temps, tu sais, je pense que le but de cette discussion, c'est juste de peut-être offrir certains conseils ou parfois de prendre un pas de recul.
Je pense qu'une chose qui est difficile des fois, c'est quand on sent tellement d'amour ou d'affinité pour quelqu'un, de se dire « Pourquoi Dieu me permettrait... » Tu sais, pourquoi c'est si beau, me semble, c'est si bon, ou j'ai cette impression-là, tu sais. Pourquoi est-ce qu'il me permet d'avoir ces émotions-là envers quelqu'un qui... envers lequel je pourrais pas marier?
Tu me poses la question? Mais ça revient encore une fois au feeling, l'idée que ton cœur, tes émotions sont un bien mauvais conseiller. T'sais. La preuve, c'est que à chaque jour, ma chair est tentée d'aller vers quelque chose qui m'éloigne de Dieu. T'sais? Dans le sens où que notre chair a des désirs charnels et même on aime. T'sais, le péché est attrayant aussi. On aime parfois le péché et tout ça. La question pourrait se poser pour celui qui lutte avec l'alcoolisme. Pourquoi j'aime autant l'alcool alors que ça me fait autant de mal? C'est un peu la même chose, je crois.
Là où peut-être il y a une nuance, c'est que la personne qu'on aime, elle nous fait peut-être pas de mal.
C'est vrai.
On voit peut-être même en elle des caractéristiques que Dieu a mis en eux. Ils sont quand même faits à l'image de Dieu aussi. C'est des personnes qui contribuent à la société. Il y a peut-être que, tu sais, comme je pense à mes amis justement, puis je suis comme, c'est pas inapproprié de les aimer. Là, c'est sûr que je vais pas les marier, mais c'est pour dire que, tu sais, comme je veux juste un peu apporter cette nuance-là. Ou peut-être que c'est quand même pas sage d'aller plus loin dans cette relation-là. Mais c'est un peu... Je peux comprendre pourquoi on peut aimer quelqu'un qui est pas chrétien.
Ah oui, définitivement, je suis tout à fait d'accord. Si je reprends cette histoire que j'ai partagée un petit peu de cette femme qui était super intègre à Dieu, puis en plus de ça, elle était âgée, elle avait eu un certain bagage négatif avec des relations, tout ça... Puis là, peut-être un peu plus avancée en âge, elle a hâte de se trouver un conjoint, fait connaissance de ce jeune homme-là, des amis communs. Ça clique, là. Ça clique incroyablement. Puis j'avais de la difficulté, moi aussi, à juste la conseiller parce que j'avais tellement de compassion pour elle. Puis je pouvais pas, en tant que pasteur même, je ne peux pas dire à quelqu'un « ne sors pas avec une personne ». Je peux juste pas. Chaque personne est propre, tu sais, prend ses choix, ses décisions, puis on peut juste regarder ensemble qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on pense de la parole, puis essayer d'être guidé. Puis une des choses que elle voulait tellement être avec un chrétien qu'elle a comme mis des barrières vraiment, tu sais, elle a vraiment mis des barrières, vraiment pris son temps, Puis oui, au début, elle partageait sa foi. Donc là, évidemment, vient tout le « Ah, il est intéressé par ma foi. Ah, il veut en savoir plus. Hey, » On a discuté pendant 2 heures de la Bible. Là, tu sais, ça anime encore plus notre foi. Mm-hmm. Ça anime même nos émotions envers cette personne-là, tu sais. Mm. Puis le jeune homme est venu à l'église. Quelques fois, ils sont venus ensemble, puis tout ça. Puis tranquillement, je commençais à voir certains changements ou certaines, vraiment un intérêt plus profond que juste superficiel. Peut-être déjà un conseil que je peux donner serait de justement demander l'avis de ceux qui sont extérieurs. Mm. Tu sais, déjà juste parce que ceux qui sont pas attachés émotionnellement. Puis je me rappellerai toujours ce moment où ce que elle n'était pas à l'église un dimanche matin, elle avait une activité quelconque, puis le jeune homme est venu à l'église sans qu'elle le sache. Juste sa poursuite de Jésus, de la foi chrétienne, était devenue plus grande que sa poursuite amoureuse. Mm. Tu sais? Puis là, à ce moment-là, moi, c'est là que j'ai commencé à avoir confiance dans le futur potentiel de ce couple-là. Puis le jeune homme en question, ben, c'est des histoires, évidemment, faut faire attention, c'est des histoires individuelles, il y en a de ces exemples-là, mais il s'est converti, il est venu à Jésus, il s'est fait baptiser, puis je les ai mariés. Mm. Puis ils sont encore ensemble, ils ont 3 magnifiques enfants, puis c'est merveilleux, gloire à Jésus. Ça arrive. Mais vous voyez, je pense que la fréquentation, et c'est là que c'est important de bien définir c'est quoi une fréquentation pour un chrétien. Mm. Sa fréquentation était vraiment stricte, sur des bases vraiment solides. Il y avait vraiment, tu sais, OK, on va communiquer ensemble, on va apprendre à se connaître, mais tu sais, il n'y avait pas de... Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'allait pas trop loin, là. C'était vraiment une amitié, finalement. Une amitié forte, très lente, dans l'espoir de peut-être, mais à tout moment, elle était prête à se retirer de cette relation-là.
C'est ça que je trouve dur. Il y a toujours des exceptions qui nous montrent que ça a marché au final. Fait que comment tu sais au départ si ton histoire va finir comme ça aussi ou si ça va être autrement. Puis finalement, ben, c'est toi qui es influencé par l'autre personne. Puis finalement,
exactement.
Ben, tu finis par te retirer de la foi.
Exactement.
Juste de perdre ton feu que tu avais au départ.
Exactement.
Sans forcément perdre la foi.
Et c'est pour ça que je le mentionne. Pour que justement, on soit conscient ensemble que je suis pas totalement dans un sens, tu sais, dans le sens je suis conscient que il y a de ces histoires-là que tout le monde a en tête, tout le monde en connaît une histoire, tous les chrétiens l'ont vu une fois. Mm. Puis de l'autre côté, ben moi, je regarde, puis alors que je me préparais pour ce podcast, pour cette discussion, je regardais aussi tous les mariages, les gens que j'ai mariés, puis je regardais aussi tous les gens qui malheureusement aujourd'hui sont divorcés. Ça fait quand même, je pense, 14 ans que je fais des mariages. J'en ai fait près d'une trentaine. Puis je regardais un peu les divorces. Puis j'étais attristé. Mm. Puis il y en a bien souvent d'entre eux que c'était 2 personnes qu'on était convaincus qu'ils suivaient Jésus de tout leur cœur. Puis finalement, ben oups, divorce, il y en a un qui a abandonné le Seigneur, ou les 2. Ouais, ça arrive. Mm.
C'est juste pour dire hein, qu'on peut se dire si je suis un certain principe, si je fais tout correct, ben ça devrait me garantir un mariage incroyable. Mais ce que je vois, c'est que c'est pas toujours aussi évident que ça. Que des fois on trouve quelqu'un qu'on croit aime Dieu, comme t'as dit Maxime, puis à long terme, c'est peut-être même nous qui vivons des doutes ou qui avons de la... Tu sais, c'est pas toujours ou l'autre personne ou... Puis où notre mariage a juste plus de défis, tu sais. Ça garantit rien dans la facilité du mariage, mais quoi que des fois, oui, quand même. Ah, tu sais, c'est pas évident. Puis comme tu dis, Maxime, par rapport à... Tu sais, comme l'idée, on se dit souvent, « Ah, mais tu sais, la personne que je fréquente, elle est ouverte à ma foi, elle respecte ma foi. Peut-être qu'elle va se convertir un jour. » Tu sais, on est beaucoup dans les « peut-être », parce qu'on sait pas le futur. On sait pas le futur.
Oui.
C'est ça qui me dit que... J'aime ce que tu disais, Maxime, d'aller demander conseil aux autres, d'aller chercher l'opinion des autres qui sont pas comme si près là, de ces émotions-là, puis leur sagesse aussi qu'ils ont apportée. Parce que c'est ça, pour toutes les histoires, tu sais, moi, ça fait environ, ça fait un peu plus que 10 ans que je travaille avec des jeunes adultes, puis moi aussi, j'en ai des histoires, puis je te dirais que pour chaque histoire, comme tu as décrit, Maxime, j'en ai 3 ou 4 même, que c'est l'inverse qui est arrivé.
Mm-hmm.
Que la personne s'est dit, « Ah, mais mon chum, ma blonde, est tellement proche d'accepter le Seigneur, là. Je le vois, elle est super intéressée. » Puis qu'au fil du temps, en fait, ce que je voyais, c'était que c'était la personne chrétienne qui s'éloignait de sa foi, qui a maintenant dirait même pas qu'elle est chrétienne.
Ouais.
C'est triste.
Mm. Oui, c'est triste. Puis, parce que, est-ce que c'est un pari que t'es prête à prendre?
Mm.
Tu sais, c'est ça qui est tough. Puis cela dit, encore une fois, tu l'as bien dit, tu peux marier quelqu'un qui est dans l'Église, quelqu'un qui sert Jésus, quelqu'un qui donne même, qui est généreux envers l'Église, et ce n'est pas garant non plus d'un succès assuré.
Ça nous met dans une position un peu d'humilité, hein? Un peu, moi, en tout cas, le futur, on ne peut pas vraiment le prédire. Il y a un autre élément, quand je pense au futur, que je trouve difficile dans ce sujet-là, c'est le fait que peut-être qu'on connaît juste pas beaucoup de chrétiens dans notre vie, tu sais. Je pense dans les fréquentations, une des choses que, tu sais, je m'en remets un peu dans ce stade-là de ma vie, c'est que j'essaie un peu de prévoir le futur. Je me dis, ah, oh, c'est qui que je connais, que je pourrais... Tu sais, c'est qui est chrétien autour de moi ou... Puis je n'étais même pas particulièrement... dans l'urgence de me marier, mais tu sais, on pense beaucoup au futur, tu sais, on essaie un peu, puis c'est raisonnable, il faut être sage, faut y penser, on a encouragé notre audience, justement, de penser à long terme, mais il y a une partie qu'on peut pas prévoir, on peut pas savoir, puis surtout, comme je dis, dans une situation où il n'y a pas beaucoup de chrétiens autour de nous, on se dit, ben là, je vais rester célibataire pour toute ma vie. J'ai pas vraiment d'autres solutions, puis que c'est très tentant de se dire, bon, ben, si je fréquente pas quelqu'un qui est pas chrétien, ben, j'imagine que je vais rester célibataire.
Ouais. Et si tu as ce désir d'être en couple, je pense que c'est légitime que de chercher, puis de chercher au bon endroit. Tu sais, il existe mille et une manières de rencontrer des gens. Et à ce sujet, je crois que les non-chrétiens sont beaucoup plus courageux que les chrétiens. Et des fois, les chrétiens sont trop timides. Puis les non-chrétiens sont peut-être courageux pour de mauvaises raisons. Mais je pense que, pour vrai, un célibataire chrétien devrait être beaucoup plus courageux. Parce que l'intention, elle est bonne, elle est pour la gloire de Jésus, tu sais, je veux dire, l'intention, c'est ton désir. Encore une fois, si tu penses pas avoir le don du célibat, juste de dire, hey, je vais rencontrer des mondes, je vais aller dans des contextes, puis je vais aller voir quelqu'un, je vais saluer quelqu'un, je vais inviter, surtout là, je parle peut-être plus aux jeunes hommes, là, inviter, tu sais, parce que je pense qu'il faut que... Je pense que les jeunes hommes doivent être un peu plus courageux, surtout les jeunes hommes chrétiens. Puis inviter quelqu'un à prendre un café, puis juste aller discuter, puis de risquer justement des rencontres. Il devrait y en avoir beaucoup plus. Joins-toi à un petit groupe dans ton église, tu sais. Joins-toi à Pouvoir de changer pour rencontrer des gens sur ton campus chrétien. Tu sais, tout ça, prendre des initiatives pour vraiment rencontrer de nouvelles personnes qui partagent la même fondation que toi, la même foi que toi. Puis, si je peux me permettre, je vais même aller plus loin. Parce que la question qui revient des fois, c'est « Ah ouais, ben, non, mais c'est correct, ça, c'est comme une checklist. Hein? Ah ouais, non, il est catholique. Ah non, il a grandi dans une famille chrétienne. » Puis, tout de suite, on dit « Ah ben, c'est correct. » Tu sais, ça l'a coché ma petite box de je veux un mari chrétien ou une femme chrétienne. Mais tu veux pas non plus marier un religieux. Tu veux pas non plus marier quelqu'un qui a juste... Tu veux marier un disciple de Jésus, là. Tu sais, tu veux marier quelqu'un qui suit Jésus d'une manière intègre et solide. Puis là, encore là, on monte encore la barre encore plus haute, dans le sens que tu veux pas quelqu'un de parfait, évidemment. Puis c'est là qu'il faut faire la nuance, peut-être. Mais quelqu'un qui vraiment désire vraiment suivre Jésus dans son cœur. Tu sais, qui est baptisé, au moins, qui a ça, là.
Mm.
Héloïse, je te vois réagir.
Ouais,
les gens
ne
voient pas,
prêche.
Mais moi, je te vois réagir. OK.
Ah, tu parles à mon cœur ou à toutes les frustrations que j'ai d'être célibataire dans le monde chrétien. Donc, je suis comme, ah, c'est bon, faut que les gens, ils entendent ça. Puis il y a souvent cette idée-là, parfois dans le monde chrétien, où c'est les hommes qui doivent faire le premier pas. Et donc là, je fais rien, puis il n'y en a pas beaucoup. Et donc, juste les frustrations qui viennent de ça, puis d'être comme, ah, ça pourrait être le fun, tu sais, de vivre quelque chose d'autre. Mais en même temps, d'avoir la liste super haute, un peu que, comme tu dis, où je réalisais avec certaines amies que c'était pas assez de justement dire que oh, il est chrétien, fait que je suis comme, OK, bon, je vais baptiser, impliquer dans une église et tout, puis je suis comme, je rayais encore plus. Fait que c'est comme, t'es tout en train de nommer là, les choses qui rendent ça difficile pour des célibataires dans le monde chrétien. Comme on a mis beaucoup de règles, on veut tellement se protéger, on veut tellement pas pécher. Même quand je pense à l'idée de ne pas sortir avec un autre chrétien, c'est parce que je veux pas pécher. C'est un peu une peur qui est là. Ou même dans un cercle chrétien, c'est comme, sans vouloir demander comme c'est où que je peux aller le plus loin, mais c'est comme de tellement vouloir tout protéger puis de comme rester sain, même dans le processus. Qui est comme rend vraiment ça compliqué de sortir avec quelqu'un dans le monde chrétien.
Je pense qu'une des questions, c'est parce que souvent le chrétien célibataire va se dire « Comment je peux faire pour ne pas pécher? » Puis la question qu'il faut se demander, c'est « Comment je peux faire pour honorer Jésus?
»
Des fois, c'est d'inverser la chose. Tu veux pas vivre ta vie sur des principes de peur, mais tu veux vivre ta vie sur un principe de foi, par contre.
Je me demandais si vous pouviez nous faire rêver un peu. J'entends souvent que, on en parle depuis le début, là, que notre fondation, ça doit être Dieu, puis ça doit être notre foi. Puis j'entends qu'il est comme, Dieu devrait être au centre d'une relation. Mais ça ressemble à quoi dans vos vies?
Bonne question.
Vas-y, Christine.
Dans votre couple.
Je m'étais pas préparée à cette question-là. Oups. Mais non, c'est correct, j'aime ça, parce que c'est ça un peu qu'on a à cœur dans le podcast, hein? C'est qu'on se pose des questions naturellement.
Ça a l'air tellement abstrait pour moi, je suis d'accord, mais concrètement, quoi est-ce que je peux rêver?
Mais je dirais que pour moi, puis mon mari, puis moi, on est certainement pas parfaits, là. Mais premièrement...
C'est ça que je veux entendre.
On n'est pas parfaits, mais s'il y a une chose que je suis tellement reconnaissante, c'est à quel point il m'encourage de prendre des pas de foi pour le Seigneur. Je dirais que, premièrement, moi, comme je dis, j'étais pas super dans l'urgence de me marier, là. J'avais vraiment un désir très fort quand j'étais célibataire de servir le Seigneur, d'être dans la mission, au point tel où ce que je m'étais dit, si je rencontre... Mais là, je sais que ça, c'est un peu peut-être... un peu intense, là, mais pour moi, c'était tellement clair dans ma vie que si les hommes que je rencontrais, ils étaient pas pour embarquer, tu sais, s'ils étaient pas déjà embarqués dans cette vision-là ou s'ils avaient pas déjà à cœur ça, j'avais quasiment pas le temps, là. Fait que je me disais, hey, non, tu sais, je préfère être célibataire que de pas, tu sais, c'était un peu ça, là, j'étais vraiment comme... j'avais vraiment ça à cœur, puis fait que c'est sûr que il y avait pas grand, tu sais, j'avais pas beaucoup d'options, mais une des choses quand j'ai marié mon mari Daniel, c'est ça que j'apprécie, c'est le fait que justement il a à cœur la mission, il a à cœur, tu sais, il a comme le même sentiment d'appel que moi, c'est comme à séparer, on allait à une certaine vitesse, puis ensemble, on dirait que le Seigneur, il nous propulse encore plus, tu sais. Tu sais, comme Dieu nous utilise dans la vie de l'autre pour se booster encore plus dans ce qu'il nous appelle à faire. Que ce soit dans la mission ou même dans nos vies personnelles maintenant, avec nos enfants, avec nos familles, on est loin d'être parfait, mais ça, je pense que c'est quelque chose dans lequel je vois que, tu sais, c'est évident que si j'avais marié quelqu'un qui partageait ma foi, ben Il comprendrait pas mon cœur pour l'évangélisation. Il comprendrait pas mon cœur pour le ministère, mon implication dans mon église. Ça serait dur. Puis ça, je le dis avec expérience. Moi, je viens d'une famille où ma mère est chrétienne, mon père ne l'est pas. Fait que pour moi, c'était toujours quelque chose qui était très... T'sais, j'en étais consciente des sacrifices que je ferais si jamais je rencontrais ou je mariais quelqu'un qui partageait pas ma foi. Puis encore là, mon père, il est incroyable. C'est un bon père, je l'aime. Mais il y a des choses qu'il comprend pas. Il y a des choses qu'il comprend pas. L'idée de sacrifier, de dire « je vais sacrifier quelque chose pour le royaume de Dieu »,
ça ne fait pas de sens.
Ben, ça fait pas de sens pour quelqu'un qui y croit pas. Pourquoi est-ce que tu donnerais de ton argent? Mm-hmm. Pourquoi tu donnerais ton temps? Pourquoi tu sacrifierais, tu sais, certaines valeurs ou certaines, t'sais, certaines priorités pour d'autres? Si ces personnes-là ne partagent pas cette vision-là du monde, ben, ça va être beaucoup plus difficile. Fait que je suis reconnaissante que je partage, tu sais, que je suis mariée avec quelqu'un qui partage cette vision-là. Et qui, des fois, même me corrige quand je parle de focus.
Oui, c'est un peu dans le même sens que Christina. Je pense que c'est nous aussi, c'est très orienté vers la mission, vers le royaume. Moi, mon épouse, on sert ensemble. Moi, mon épouse, on a implanté une église ensemble. Tu sais, je veux dire, c'est des choix que tu... C'est des choses que tu ne ferais pas, là. C'est des choix que je ne pourrais faire, tu sais, avec une conjointe non-croyante. Mais je pense que, hormis tout ce qui est dans ce sens-là, je pense qu'une des meilleures, une des plus grands bénéfices que d'avoir un conjoint ou une conjointe chrétienne, c'est l'Évangile. C'est le fait que un être humain se reconnaît comme étant pécheur, imparfait, loin de Dieu, rebelle, sauvé par grâce, pardonné de nos péchés, et avec une espérance de la vie éternelle. Et nous sommes conscients du pardon en Jésus, de la grâce que Jésus nous a faite de nous sauver et de se révéler à nous, puis une grâce si merveilleuse. Puis ça, quand t'as deux personnes qui le savent, qui en sont conscients, ben ça change la dynamique de couple. Parce que moi, je peux perdre patience avec les enfants un soir, puis ma femme va pas me le reprocher. Elle sait que Dieu est dans ma vie, que Dieu va m'amener à la repentance. Elle va me faire grâce. On va peut-être avoir une discussion sur le sujet. T'sais, on va peut-être être confronté au sujet, mais en même temps, dans un naturel, je sais déjà qu'elle me pardonne. Je sais déjà qu'elle me fait grâce. Et c'est l'un envers l'autre, tu sais. Donc, pour tous ces moments où ce que le quotidien, où ce que notre imperfection, en fait, notre nature pécheresse est révélée au grand jour, parce que c'est à la maison qu'on le voit le plus, la grâce surabonde. La grâce surabonde. Puis ça, c'est... Je pense que dans un foyer, c'est grand. Ouais, c'est l'Évangile au quotidien, finalement. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toutes les célibataires de rencontrer quelqu'un, de vivre ça, de cheminer ensemble en Jésus, d'être en mission, comme Christina le dit, puis de vivre ces belles histoires-là, définitivement.
Merci beaucoup pour vos partages. Je trouve ça le fun que des jeunes peuvent entendre ça, parce que maintenant, je suis un peu plus consciente d'à quel point ma façon de voir le monde puis de comprendre le monde est changée par l'Évangile et par Dieu. Mais quand j'étais plus jeune, je voyais pas la différence que ça faisait forcément de croire en Dieu. Fait que je voyais que ma vie était un peu différente des autres, mais pas à quel point Dieu venait vraiment tout changer. Donc, c'est le fun que les jeunes puissent entendre ça. Puis j'espère qu'ils vous entendent puis ils croient qu'un jour, eux aussi, ils vont voir les choses de cette façon-là.
Yes.
Mais en attendant, les gens, ils attendent. Il y a encore beaucoup de célibataires. qu'est-ce qu'on fait? Vous, des trucs pour faire confiance à Dieu dans cette attente-là, au lieu de se tourner vers des non-chrétiens, mais d'attendre que Dieu nous présente quelqu'un qui est...
Ben moi, je dirais premièrement, d'être célibataire, c'est pas nécessairement un problème. Au contraire, ça peut être une grande bénédiction. Puis c'est pas un problème à régler nécessairement. Ça veut pas dire, tu sais, Dieu pour certaines personnes, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui met sur leur cœur, puis ils ont vraiment un désir de se marier. Je suis pas en train de dire que ce désir-là est mal, mais je suis encore premièrement en train de dire que c'est pas tout le monde. C'est pas pour tout le monde le mariage, puis que Dieu, il peut bénir, puis même utiliser. Ah, écoute, pour moi, le célibat, c'est tellement, ça peut être vraiment un don, puis une bonne chose en soi. Puis aussi, écoutez, moi, je me rappelle que. je me rappelle, je pense que c'était la deuxième journée après que je me suis mariée, que j'ai eu un moment triste. Vous me direz, ben là, t'es encore là, tu venais juste de te marier. Mais oui, j'ai eu un moment triste parce que je me suis rendu compte à quel point j'avais perdu beaucoup de temps à m'inquiéter de si j'allais me marier. Je sais pas pourquoi, là, mais j'ai eu un moment où je regardais ma vie, puis tu sais, toutes ces années-là, puis je me disais, mais pourquoi je me stressais tant que ça? Puis tu sais, je comprends. On change, tu sais, je me stresse par rapport à des choses maintenant aussi que je sais avec, dans une couple de mois, je vais me dire, Christina, t'aurais pas dû, tu sais. Mais n'empêche qu'il y a un côté où ce que je vous encouragerais, si je pouvais me parler à moi, célibataire, là, je m'encouragerais à arrêter de m'inquiéter autant, à arrêter d'essayer de régler le problème par moi-même. Quoique des fois, c'est bon de prendre l'initiative quand c'est nécessaire, mais tu sais, je veux dire, d'essayer de trouver la solution à mon célibat, là, je m'arrêterais, je m'encouragerais, puis je me dirais, profite de ta saison.
Mm-hmm.
Profite de ta saison, puis à fond, là, lance-toi, Seigneur, et tout ce que tu as besoin. Puis s'il veut que tu trouves quelqu'un, ben éventuellement tu vas la trouver cette personne-là. Mais entre-temps, profite de ce qu'il te donne, tu sais. Essaye de cultiver le contentement, sachant que c'est pas toujours facile. Mais ce que je me rends compte aussi, c'est que même marié, il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui nous manque, hein, ou quelque chose qu'on aimerait qui soit différent dans notre vie.
Mm-hmm.
Mais en tout cas, là, je me parle, là, je me parle à moi, là, je sais que c'est peut-être pas sensible là, au désir de quelqu'un qui a vraiment cette douleur-là, puis je veux aussi, pour cette personne-là qui vraiment, sincèrement, souhaite se marier, voit les gens autour d'eux se marier,
ouais.
Je veux aussi, tu sais, dire à cette personne-là, mais Seigneur, le Seigneur, il t'aime, il voit ta souffrance, il voit ton désir, puis il a compassion aussi, tu sais.
Ouais.
Il est là avec toi dans ce désir-là qui semble pas se réaliser.
Mm.
Ouais. Ouais, puis amène à tout ce que tu dis, hein. Puis j'ajouterais aussi, comme, si t'es pas en couple en ce moment, surtout, là, établis déjà tes barrières. Établis des barrières à laquelle toi, t'es à l'aise. Tu sais, respecte-toi. Qu'est-ce que ça va être de se faire respecter en étant en couple? C'est quoi tes non négociables, tu sais? Puis sois plus restrictif que permissif. Tu sais, dans tes amitiés, ça va être quoi que t'es prête à développer comme type de relation? Tu sais, justement, mélange pas, évidemment, la proximité physique puis la proximité émotionnelle même avec quelqu'un sans être conscient que ça peut mener justement à une fréquentation puis à plus loin, tu sais. Fait que, mets tes barrières. Je l'ai dit, l'importance de l'amitié, c'est super important. Puis rappelle-toi aussi que dans tout ça, tu es aussi en train d'apprendre le fruit de l'esprit qui est aussi la maîtrise de soi. Hein? Ça fait partie de ça aussi. Tu sais, fait qu'au bout de la ligne, n'entre pas dans une relation qui pourrait compromettre ton intégrité chrétienne, ou affaiblir ton désir de sainteté, ou même porter ombrage à ton témoignage chrétien, tu sais. Moi, c'est ce que j'encouragerais, bien évidemment, à vraiment définir c'est quoi tes barrières, puis qu'est-ce que tu cherches aussi comme conjoint. C'est quand même le plus gros projet de ta vie, hein. C'est quand même le plus gros projet de ta vie. Puis, mais ce projet-là va toujours être imparfait.
Ouais. Je dirais, là, je me permets de me lancer, je dirais, essaye de déterminer ce que tu veux chez ton conjoint, ta conjointe, mais il faut que ça soit les bonnes choses aussi. Tu sais, comme ah, des oui. fois, mmh. on se met des espèces de critères, là, où on s'imagine aussi, moi, je me rappelle, c'était comme, ah, oh, il y a tel type de personnalité avec lequel je clique. Ouais. Fait que, tu sais, c'était loin, là, d'être superficiel. Mais j'avais une image, je m'étais tellement rêvé des scénarios que je m'étais imaginé comment serait mon futur mari. Puis je peux le dire, mon mari est bien au courant, il n'est pas du tout comme ce que je m'étais imaginé. Puis je suis contente, j'encourage les gens souvent à dire, osez, Maxime, tu l'as dit, osez là, prendre des cafés avec des gens que vous vous dites, pas sûr. Ouais. Mais c'est quoi le mal que ça va faire de prendre un café avec quelqu'un, d'apprendre à la connaître? Tu vas peut-être te faire un super bon ami, puis vous allez vous rendre compte qu'effectivement, la chimie n'est pas là, mais c'est pas grave.
Ouais.
Tu sais, je pense que des fois, on s'imagine comme que d'essayer de découvrir les autres, c'est comme de pas réussir à quelque chose, mais au final, on gagne toujours d'apprendre à connaître un frère, une sœur en Christ, là.
Exact.
Puis on sait pas, je pense que c'est ça, on ne sait pas c'est qui que Dieu a en tête pour nous. Fait que c'est sûr qu'il y a certains principes, on en a parlé, mais tu sais, laissons à Dieu nous surprendre aussi, peut-être.
Définitivement. Puis en fait, quand je dis « définis ce que tu cherches », j'irais même plus loin. La seule chose que tu devrais rechercher, c'est un disciple de Jésus engagé.
Mm-hmm.
Tout simplement. Tu sais, dans le sens, si c'est ça ta fondation, tu veux que ça soit ça la fondation de ton mariage, ben recherche ça d'abord et avant tout, puis après ça, laisse-toi surprendre par le reste. Je me rappelle de quelqu'un qui est proche de moi, qui était célibataire, comme on dit, ready to mingle. Puis, puis là, moi, je vois un jeune homme dans mon église, puis je suis comme, ah, il est super cool, tout ça. Puis là, j'étais comme, j'essayais un peu de faire mon cupidon et de les faire en sorte qu'ils se rencontrent, tu sais. Puis elle disait, non, c'est pas mon genre, puis tout ça, puis tu sais, non, tu sais. Elle se mettait des barrières, tu sais. Puis un jour, elle arrive à l'église, puis elle le voit en train, on faisait l'église en montage-démontage, donc dans un lieu neutre, là, un cinéma, puis on faisait du montage-démontage. Puis ce jeune homme-là, il était en train de pousser tous des gros bacs, tu sais. Pousser des gros bacs, puis tout ça, puis en train de faire le montage. Puis après la réunion, elle vient me voir, elle me dit, « Hey, c'est-tu de lui que tu parlais, tu sais? » Puis elle me dit, moi je dis, ouais, c'est quoi, c'est ces muscles qui t'ont charmé. Mais elle disait, non, c'est juste, on dirait que j'ai vu un gars qui servait Jésus. Puis c'est là que ça m'a comme, c'est là qu'il m'a intéressé. Fait que tu sais, des fois dans nos critères, pas superficiels, évidemment, il faut que tu trouves beau, belle, ta conjointe, ton conjoint, blablabla, tu sais, mm-hmm. oui à ça. Mais des fois dans nos critères très précis, on peut les enlever pour justement faire place à ce qui est le plus important, juste quelqu'un qui vraiment est un disciple de Jésus engagé.
Mm-hmm.
Ouais.
Ça m'a vraiment parlé ce que tu as ramené quelques fois là, sur les amitiés.
Mm-hmm.
Une des choses qui, je pense que ça vaut vraiment la peine d'investir dans nos amitiés quand on est célibataire, puis après ça, je pense qu'il reste quand on se marie, mais je regarde juste que mes amis étaient là avant que je sorte avec un gars, et ils étaient là après. Bon, ouais. Le gars, il va pas rester très longtemps, mais les amis, ils étaient là. Et je crois sincèrement que personne n'est fait pour vivre seul. Je crois que ce que Dieu a dit à la création, là, c'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, on a besoin de s'entourer. Puis quand on est célibataire, souvent, on va penser, on a besoin d'un mari ou d'une femme, mais on se rend pas compte que il y a quand même notre famille d'origine. Il y a quand même... Il y a notre Église. Dieu nous a donné une magnifique communauté à travers l'Église, des amis où, justement, ils vont pas remplir... Ils peuvent pas être un mari ou une femme, mais ils peuvent remplir des besoins émotionnels différemment en étant là autour de nous. Puis ça vaut la peine d'investir là-dedans en attendant d'avoir quelqu'un parce qu'ils vont être là même après. Et puis, quand on est en communauté, quand on est avec d'autres êtres humains, parce que je vois que certains... Ça devient plus facile d'être célibataire, je trouve, quand que je suis bien entourée, quand que je passe du temps avec mes colocs, quand que je vais visiter ma propre famille. C'est pas vrai que j'ai pas de famille en ce moment-là. J'ai du monde. Et voilà, c'est pas... Être célibataire, c'est pas forcément d'être seul.
Ouais. Ouais, puis même encore plus, Jésus a vécu la solitude. Puis la plus belle des promesses, la dernière parole avec laquelle il laisse chaque croyant jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans plus tard, c'est « Je serai avec vous jusqu'à la fin ». Qui est cette idée que Jésus est là, qui est avec toi, combat justement la solitude, qui est souvent notre plus grande, notre plus grand combat, notre plus grande peur. Eh bien, Jésus est là.
Merci Maxime pour cette conversation. C'est vraiment le fun de voir comment que Dieu est avec nous, même dans cette période de célibat, puis que ça vaut la peine vraiment d'attendre d'avoir quelqu'un qui a mis sa confiance en Dieu et qui veut le suivre pour vraiment avoir un mariage solide.
Amen. Merci Maxime. Amen. Puis un gros merci. Ce n'est pas mon histoire à moi, personnellement. J'ai rencontré ma femme très jeune, puis elle était chrétienne. Puis, ce n'est pas mon histoire, mais j'ai vraiment beaucoup de compassion pour tous ceux qui nous écoutent, qui vivent ça. Puis, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous garde là-dedans. Dieu est là, Jésus est là. Puis, ça m'a fait plaisir d'avoir cette discussion-là avec vous.
Merci.
J'ai des questions est un podcast de Convergence Québec et Pouvoir de changer étudiant. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des citations et pour apprendre à se connaître, rejoins-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant g.d.question. On se retrouve bientôt pour répondre à une nouvelle question.